15h01, vous écoutez le retour à Boulevard 102.1. Un petit peu plus tôt dans le show, je vous ai posé une question au 418-971-1021. C'est en lien avec un petit palmarès qui a été fait par la plateforme Airbnb par rapport aux 10 quartiers les plus cools au Canada. Puis nous autres, à Québec, on est chanceux. On a un de ces quartiers-là. Puis Antonine, on demandait un petit peu plus tôt donc aux auditeurs, vous pensez que c'est quel le quartier de Québec qui se retrouve dans ces fameux quartiers-là, les plus populaires? Il y a une personne qui l'a eu. On a reçu plein de réponses. On a
Mais je pense qu'il niaisait.
Ouais, c'est ben oui, surtout avec la raison qu'il a donnée. Tu sais, on a reçu évidemment Saint-Sacrement. Quelqu'un nous a dit Sainte-Foy, tu sais, transport en commun, les hôtels, le petit Champlain, Saint-Sacrement, je pense que je l'ai dit. Mais je pense que le nom qui nous vient en tête de quartier en premier, bon, quelqu'un dit Val-Bélair. Non, Christian, c'est pas Val-Bélair.
Niaise, là, mais c'est correct.
Tantôt, la personne nous avait écrit « Ah, c'est Saint-Sauveur, c'est là qu'il y a la meilleure dope. » Je sais pas c'est quoi les critères des Airbnb.
Ben d'abord, juste vous dire, c'est le top 10 des quartiers les plus cools. Donc, c'est pas les plus touristiques. Donc, pensez pas Vieux-Québec, Petit-Champlain nécessairement. Donc, on sort un peu du cadre normal touristique.
Puis cool, c'est très subjectif, s'entend. Là.
Mais tu sais, le Vieux-Québec, j'aime beaucoup ça, là, mais c'est pas cool. Là,
en même temps, ça dépend de la définition du mot cool. Moi, je trouve ça cool, le Vieux-Québec.
En fait, quand je regarde l'article qui est écrit par Airbnb, vraiment, ce que les gens recherchent de plus en plus, c'est d'habiter dans des quartiers plus authentiques, entre guillemets. C'est sûr que, tu sais, par exemple, le Vieux-Québec, le Petit-Champlain, c'est touristique. Ouais. C'est fait pour les touristes. De plus en plus de voyageurs veulent avoir une expérience plus locale, vivre comme les gens de la place, donc vont chercher des quartiers où c'est pas nécessairement des restos trappe à touristes, c'est des vrais restos que les gens apprécient, des cafés, etc., pour vivre une vie de quartier qui est pas là, t'as ton appareil photo dans le cou, puis un sac banane autour de la taille, puis tu visites les choses qu'on a préparées pour toi, puis t'embarques dans le gros autobus rouge là, pour visiter. Donc maintenant que ça c'est dit, quel quartier nous vient en tête spontanément pour vivre l'expérience Québec, mais sans tomber dans les trappes à touristes? Ben là, c'est sûr que tu as des idées différentes.
Sans tomber dans Saint-Roch non plus.
Ben, regarde, tu vois, là, il y a Camille qui nous écrit « Limoilou, car il y a de tout ». Moi, c'était le quartier que je pensais qui allait peut-être se démarquer. Il y a quelque chose de cool à Limoilou, là, tu sais. Il y a des beaux petits endroits, il y a des parcs, etc. Mais non, je vais vous faire le top 10 très, très rapidement à travers le Canada. Il y a un quartier à Vancouver qui s'appelle Hastings Sunrise, North End dans Kelowna au BC, Shaganapi à Calgary, McKernan à Edmonton. Tu sais, c'est pas des endroits qu'on connaît beaucoup parce que, justement, on sort un peu du cadre. Central Boniface à Winnipeg.
Hey, voyager
à Toronto.
Voyager à Winnipeg, faut que ça tente.
Là. Faut que ça tente, mais en ce moment, les gens, ils cherchent des destinations locales. Puis quand une fois, t'es allé à Sandbanks, puis que... T'sais, bon. Fait que les gens cherchent un peu des trucs canadiens, mais différents, dans le contexte où on a un petit peu moins envie de voyager aux États-Unis. Je termine la liste avec The Glebe à Ottawa, que je connais pas non plus, et Downtown Halifax, qui est un petit peu plus connu comme tel.
Glebe à Ottawa, c'est quand même cool. Par exemple, c'est pas loin de la place TD. T'es à peu près dans le centre-ville ou pas trop loin. Puis je pense que je ferais un lien entre The Glebe à Ottawa puis le quartier Saint-Sauveur à Québec.
Oui.
Je pense que c'est ces comparaisons-là où t'es peut-être plus dans là où le monde local va vivre, mais t'es collé aussi sur le centre-ville.
Oui, effectivement. Puis je pense que ça se qualifie dans ce que je disais un peu plus tôt, là, pour vivre
exact.
Un petit peu plus l'expérience ottavienne authentique. Il y a d'autres noms de quartiers qui rentrent, là, des gens, mais je pense aussi c'est un peu des blagues, mais Val-Bélair, Vanier, Wendake, qui aurait pu, mais qui est quand même assez touristique aussi,
ouais.
Somme toute. Je pense que c'est devenu un incontournable pour les touristes. Il y a des gens qui disent Saint-Roch. Limoilou revient également de nouveau. Donc, d'abord, il y a un quartier à Montréal qui a été identifié par Airbnb.
Que je connaissais pas.
Ben moi non plus. Puis Mathias, tu nous diras si toi, tu connaissais le 1000 carrés doré, le Golden Square Mile à Montréal.
J'ai aucune idée.
Alors, c'est au pied du Mont-Royal, côté sud-est, dans lequel on va retrouver, par exemple, l'Université McGill, le Forum, le Musée McCord, le Club Saint-James, l'Hôpital Royal Victoria.
Le Musée des Beaux-Arts est là-dedans.
C'est très beau, avec une architecture très anglaise. C'est un quartier à influence très, très anglaise, mais c'est vraiment pas très loin du centre-ville.
Non, ben non, puis même, je suis en train de checker, c'est quoi factuellement les limites du carré. Ça va quasiment jusqu'au Centre Bell.
Ben, c'est ça, là. Donc, on est quand même... On sort pas trop de ce qui est classique au centre-ville à Montréal.
T'as une bonne portion de Sainte-Catherine-Ouest qui est direct dedans. Là.
Et le quartier qui a été retenu à Québec, c'est Saint-Sauveur. Puis moi, ça m'a quand même surprise, parce que moi, j'ai vécu dans Saint-Sauveur en passant, là, quand j'étais très, très jeune.
Puis là, tu t'es Saint-Sauvé.
Je me suis sauvée de Saint-Sauveur. C'est un secteur, bon, pour ceux qui connaissent moins Saint-Sauveur, quartier de la Basse-Ville, un quartier dit ouvrier historiquement, très, très dense. Hein? C'est un quartier où, moi, ce qui me frappe toujours à Saint-Sauveur, c'est tu vas voir des duplex, des triplex, des blocs qui sont très, très proches du trottoir. Il n'y a pas énormément de grands terrains avec des résidences avec des grands terrains, quoique ça dépend évidemment des secteurs dans Saint-Sauveur. Beaucoup de bons petits restos dans Saint-Sauveur, ça, c'est vrai. Je pense au Tao, notamment, à Julio Taqueria. Il y a plein de restos asiatiques aussi.
Je pense que c'est le secteur plus est de Saint-Sauveur, là, à l'ouest. Pas mal plus mollo, on s'entend, là, quand t'es plus vers le... pas loin du parc industriel de Jean Talon. Hein.
Oui, effectivement. Moi, mon endroit préféré dans Saint-Sauveur, c'est le magasin La Tulipe, mais ça, c'est une autre histoire. Je pense pas que les touristes, ça les intéresse nécessairement beaucoup.
Les danseuses, tu dans Saint-Sauveur?
Je pense pas, c'est
ben,
sûr.
C'est pas loin de l'Arsenal. C'est pas au bord de la rue de l'Arsenal.
Hey, je connais pas assez ça. Je compte sur vous pour me dire ces choses-là.
D'après moi, oui.
Bon, écoute, ça peut être un argument pour certains touristes. Mais tantôt, on se demandait comment ils ont fait leur choix. C'est sûr que Airbnb, c'est des plateformes de location d'appartements, de condos, de maisons. Dans Saint-Sauveur, on a vu beaucoup de gentrification dans les dernières années. Donc, des duplex qui sont flippés puis qui sont super beaux à l'intérieur. Des jeunes familles qui se sont, ou des jeunes couples professionnels qui se sont installés là, qui ont rénové des blocs appartements qui n'étaient peut-être pas là, super glamour au départ, mais on a vraiment ce phénomène-là. Je ne suis pas surprise de savoir qu'il doit y avoir des Airbnb intéressants dans le quartier.
Surtout si je t'apprends que Lady Marianne semble vraiment être là dans le quartier Saint-Sauveur.
Bien là, tu viens de régler l'argumentaire. Là. Ça, c'est sûr. Fait que je ne sais pas si vous êtes d'accord. Moi, si je devais recommander un quartier, là, mettons qu'on me dit...
À
Québec, puis que la personne elle me dit « je ne veux pas être dans le quartier touristique, qu'est-ce que tu me recommandes pour vivre la vie de quartier? » Moi, c'est sûr que c'est Montcalm qui me viendrait plus en tête.
Mais encore là, pour moi, ça revient quasiment au même... Ben non, je pense que je préfère en effet Montcalm que Saint-Sauveur. Mais pour moi, le plus intéressant, c'est vraiment la proximité d'être proche du centre-ville sans être dans le centre-ville.
Ouais, c'est vrai.
Moi, peu importe où je vais, dans quelle ville je vais. Tu sais, à Montréal, j'aime ça être collé sur le centre-ville, pouvoir y aller à pied, mettons, en dedans de 25-30 minutes, sans nécessairement être pogné dans le centre-ville.
Exact.
Avec des personnes en situation d'itinérance qui crient toute la nuit à travers les fenêtres.
Ouais, pour avoir une bonne nuit de sommeil et te sentir en sécurité. Ben, je pense que c'est un peu la même chose à Québec. T'sais, c'est sûr que Saint-Roch, c'est un quartier où il y a plein de restos, il y a plein d'affaires, mais c'est sûr qu'il y a des petites problématiques d'itinérance et de toxicomanie aussi. Saint-Sauveur, c'est quand même plus tranquille. Oui, c'est un quartier ouvrier, mais c'est pas un quartier où tu te sens pas en sécurité. Moi, je pense que c'est effectivement un lieu où est-ce qu'on se sent bien en sécurité. Puis pourquoi je plaide pour le quartier Montcalm, c'est parce que je pense que ça remplit les critères que tu viens de dire. Tu peux te rendre dans les principales attractions, tu as accès à beaucoup d'éléments culturels, musées, salles de spectacle, théâtre, etc. Des parcs aussi, tu sais, évidemment, dans Montcalm, t'es le parc des Champs de Bataille, là, c'est quand même pas inintéressant. Puis tu peux aller dans des petits restos qui sont fréquentés par des gens locaux, qui sont pas des restos qui vivent seulement par le tourisme. Puis ça, généralement, c'est quand même un gage de qualité supplémentaire. Il y a un auditeur qui écrit « On n'a pas tous la même définition de cool ». Effectivement.
Mais non.
La conclusion de tout ça, c'est que ça dépend de vos besoins à vous. Mais j'ai trouvé intéressant, je trouvais que Airbnb sortait un peu des sentiers battus avec leur top 10.
C'est intéressant parce que là, on parle de voyage, de rester à l'intérieur du Canada. On parlait du petit quartier à Montréal, d'ici même à Québec. Puis dans la presse aujourd'hui, il y a un papier de Maude Goyer qui nous parle des micro-vacances qui, pour certains, viennent remplacer les longues vacances. Les micro-vacances, c'est quoi? C'est pas compliqué. C'est de prendre... En fait, c'est carrément d'étaler tes vacances sur l'année. Fait que tu vas prendre, des fois, tes vendredis au courant de l'été. Tu vas prendre des petits deux jours de vacances au mois de novembre. Au lieu de prendre un deux, trois semaines, un mois l'été, puis après ça, t'en as quasiment pas le reste de l'année, ben tu viens étaler ça vraiment au courant de l'année. Moi, je savais pas que je prenais des micro-vacances. Je l'ai un peu appris aujourd'hui parce que moi, c'est ça.
C'est toi
que...
qui as inventé ça, dans le fond.
Ben, je pense que oui. Mm. Non, parce que moi, c'est niaiseux, mais mes vacances, là, mes journées de vacances, j'y prends beaucoup pour aller voir des shows à Montréal, mettons. Un show le mardi soir, ben, je vais prendre mon mercredi matin. Fait que, tu sais, moi, ça n'a même pas rapport avec les colis ces fins de semaine. Je prends ça les lendemains des spectacles parce que quand tu vas voir un show à Montréal puis qu'il faut que tu rentres à la job à 4 heures le lendemain matin, c'est semi. Fait que moi, j'étais un gars de micro-vacances, puis je m'en faisais...
Ben moi, je m'excuse, Max, mais c'est pas des vacances. Ça s'appelle un congé.
Oui,
tu comprends? C'est parce
oui,
qu'à un moment donné,
raison.
J'écoutais ça, puis je me disais... Ben, je t'écoute parler, puis je me dis... Tu sais, puis on en parle souvent, là, on a de la misère à décrocher. Là. On est des gens très passionnés par nos jobs.
Non, moi, je suis pas capable, oublie ça.
T'es pas capable, ben, t'appelles, tu nous appelles pendant tes vacances pour intervenir dans le show comme Denis. C'est correct, mais moi, j'ai vraiment... de la misère à décrocher. Je pense pas que tu décroches, évidemment, quand tu pars une journée, deux journées en vacances, que je mets vraiment entre guillemets.
Je décroche absolument pas.
Mais tu ressens pas le besoin
non, c'est ça, moi,
de le faire.
Moi, pour moi, de me dire, hey, je vais dépenser une de mes journées de vacances pour aller voir un band que j'aime à Montréal, puis passer une belle soirée à Montréal, puis sortir après le show, puis sans avoir à me soucier du lendemain matin.
As-tu pris des vacances de plus de deux semaines depuis que tu travailles ici, mettons?
Mon deuxième été, je pense que j'avais pris un genre de trois semaines parce que dans ce temps-là, j'avais pas nécessairement de job clair vraiment. Fait que je faisais beaucoup d'heures. Puis dans ce temps-là, il me permettait d'accumuler mes heures, ce qui m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de vacances.
Puis quelle différence tu fais, tu vois, entre prendre tes micro-vacances ou cette fois-là, où est-ce que tu as vraiment pris des vacances plus continues?
Ben, on dirait qu'à cette heure, j'en ai pas de vacances.
Ben, oui, mais tu ressens...
C'est un peu ça le point.
Tu ressens pas le besoin d'en avoir à un moment. C'est plus ça la question, parce que des
pas
fois, juste de pouvoir s'aérer l'esprit, même si c'est pendant une semaine,
mais
je trouve que ça fait une différence sur l'humeur que t'as au travail en général ou l'humeur que t'as dans la vie.
C'est un air de bœuf, on va se le dire.
Non, mais c'est...
Non, mais mettons, au début de l'été, moi, je prends tout mes vacances aux mêmes places. J'ai... quelques jours, plusieurs jours que je sépare dans l'année. Cette année, c'est la première année que je prenais des genres de vraies vacances dans le temps des fêtes. Je pense que c'est les plus longues vacances que j'ai eues depuis 4 ans. Puis j'avais genre une semaine et demie, deux semaines.
Ouh.
Mais à part ça, je prends une semaine entre la Saint-Jean puis le 1er juillet. Là, c'était fucké un peu cette année. Là.
Mm-hmm.
Mais ces semaines-là, puis j'en reprends une la première d'août. Fait qu'un début de l'été... Puis tu sais, je sais que celle au début de l'été, je n'avais besoin, là. Comme là, j'étais brûlé, puis comme ça faisait longtemps... En fait, j'avais jamais vraiment vécu ça de ma vie, là, d'être brûlé, puis de me dire, OK, là, j'ai besoin de
vacances.
Faut que j'arrête. Ouais. Là, cette semaine-là m'a vraiment fait du bien, puis je l'ai senti. Mais à part ça, ça m'était jamais vraiment arrivé de me retrouver à un point où je me dis, j'ai besoin de vacances.
Ouais, puis profites-en, parce que cette flexibilité-là, c'est sûr que le jour où tu as des enfants, ben là, les choses changent.
Ça rentre par texto aussi,
oui,
c'est clair.
Parce qu'à un moment donné, tu finis par te coller aussi sur le calendrier scolaire. Bon, il faut que tu passes du temps avec tes enfants aussi, que
oui,
tu les vois pas, puis là, tu les aimes. Fait que tu veux les voir. Fait que ça, c'est correct aussi. Moi, je suis travailleuse autonome. C'est extrêmement difficile de décrocher puis de prendre des vacances.
Ben moi, je suis pas capable.
Ben écoute, je peux pas te dire que je suis capable. J'y travaille. Puis là, tu vois, à Noël qui vient de passer, j'avais prévu, dans toute ma bonne foi et mon optimisme, prendre 4 semaines de vacances parce que ça faisait 2 ans que j'avais pas pris de vacances.
Rappelle-nous ce qui s'est passé dans le temps des fêtes en politique.
Tout s'est passé. Christian Dubé est parti, François Legault, ça arrêtait plus une seconde. Fait que j'ai finalement réussi à prendre un bon 2 semaines en continu. Et je suis partie en voyage, qui arrive pas très souvent non plus. Et là, j'ai décroché. Tu sais, genre, j'ai mis mon cellulaire dans le coffre-fort à l'hôtel. Mais ça m'était pas arrivé depuis 2 heures.
Ça devait tellement te faire du bien.
Ben, j'étais comme une droguée, là. Tu sais, le premier 24 heures, je souffrais, là, physiquement. Et après ça, j'ai vraiment vu les bénéfices de décrocher pour vrai. Puis moi aussi, je peux rouler, là, pour toujours, là. J'ai de l'énergie beaucoup, je suis quelqu'un d'extrêmement travaillante. Puis je m'en rends pas compte que ça me manque, les vacances. Sauf quand je les prends.
Bien, puis il y a un expert cité dans le texte de la presse, c'est François Courcy, qui est un professeur au département de psychologie de l'Université de Sherbrooke. Puis ce que lui dit, c'est que les micro-vacances, oui, ça peut avoir une utilité, mais ça permet pas de se ressourcer. Puis que les gens qui prennent 2 semaines de vacances le disent tout le temps, la première semaine, tu décroches, mais le vrai repos, le vrai ressourcement, c'est dans la 2e semaine.
Ah, puis je dirais même la 3e.
Non,
là,
c'est
ça. Il y a eu une période de ma vie où je prenais 3 semaines, puis je te dirais que la 3e semaine, tu sais plus quel jour on est, là. Ce moment-là, là, ça fait du bien.
Parce que moi, en vacances, je ressens... tu vois, j'adore mon travail, puis j'aime ça, puis ça roule, mais j'ai pas de difficulté à décrocher. Parce que je sais que j'en ai besoin. Fait que quand je rentre en vacances...
Tu rentres en mode vacances.
Exact. Moi, début de l'été, j'ai eu 1 semaine et demie. Puis j'ai rien suivi pendant 1 semaine et demie.
Ah,
là. Mais quand
toi,
je dis
pas
rien...
dépendant.
Ah non, pas en tout, parce que je sens la surcharge mentale, puis je sais que j'ai pas le choix.
T'es tellement
de le
sage.
Faire.
On devrait prendre exemple sur toi, Mathias.
Non, mais parce que je suis fatigué, puis tout. Puis je sens que je commence à être désagréable à un moment donné. Fait que je suis comme, garde, je mets tout ça de côté, je relaxe. Puis pendant 1 semaine et demie, j'ai rien suivi. J'étais revenu après. Ah, là, c'était le bordel. Je comprenais plus rien. Il y avait eu le fiasco Nordvolt qui était sorti pendant mon départ. Puis là, il y avait plein de choses. Mais pendant la semaine et demie, je m'efforçais à pas ouvrir le journal le matin. J'avais mes notifications de journal, mais j'allais pas dire ouvrir l'application juste pour regarder ce qui se passe ou autre. Parce que... Puis même...
Ouais, fallait que tu changes un peu
fallait
d'air.
Que je change d'esprit, puis j'ai envie de dire, même sur une semaine normale, par exemple, j'arrive en fin de semaine, je vais avoir besoin d'une période dans ma fin de semaine où que je fais juste décrocher, puis pas juste du travail, juste une période où que j'ai rien, où okay. que je me prendre, que ce soit il y a 1 heure ou 1 heure et demie dans ma fin de semaine où que je fais juste m'asseoir puis que je fais rien pendant 1 heure, là. C'est comme j'ai besoin de ça pour pouvoir remettre la Switch à on
mais,
par
mais
la
tu
suite.
Vois, moi, mes vacances, puis je dis pas ça pour rien enlever aux animateurs de retour à la radio, moi, de faire le retour dans mon... d'avoir cet horaire-là...
Ça change d'air déjà un peu.
D'avoir cet horaire-là, de pas avoir à me lever à 3 heures le matin, là, la différence que je vois dans mon énergie, ça a même pas de bon sens, là.
Mais là, ça m'amène à une autre question pour vous autres. Est-ce que c'est vraiment l'été le meilleur moment pour prendre ses vacances? Parce que moi, j'ai pas le choix là, à cause des enfants là, de prendre mes vacances l'été, puis aussi avec les saisons de médias puis tout ça.
Veux-tu qu'on parle de ceux qui vont dans le sud en plein mois d'août? Ça,
ouais.
Je comprendrai jamais.
Écoute-moi,
mais je pense pas que c'est de ça dont tu veux parler.
Ben non, mais c'est un autre débat qu'on pourrait avoir. Moi, mon idéal dans la vie, ce serait de prendre mes vacances genre en novembre puis en mars. En mars, ça coûte cher à cause des semaines de relâche. Dans les deux moments où est-ce qu'on est... brûlé raide, là. Tu sais, où est-ce qu'il fait gris puis qu'on est tanné d'un côté de l'hiver ou bien que l'hiver commence puis on est comme « Oh my God, on s'en va-tu vraiment là-dedans? » Ça serait mon idéal. Puis l'été, moi, je travaillerais, là. J'ai de l'énergie, je suis pas malade, il y a de la lumière, j'aurais pas besoin de vacances.
Mais en même temps, prendre ses vacances en novembre, il y a de quoi de dramatique là-dedans, je trouve, aussi.
Oui, mais tu sacs ton camp, tu t'en vas au soleil,
OK,
là.
Oui. Si tu t'en vas au soleil, oui, mais
ou
si tu
Europe,
restes au
là.
Québec, oui, t'es pas Mossad au travail, mais à la place, t'es Mossad en vacances.
On est d'accord. Faut que tu aies le budget pour partir en voyage. Ouais.
Faut que tu saques ton camp. On a plusieurs textos qui entrent. Bon, certains qui disent pas le choix avec les kids, justement, de prendre les moments. Là, je pense que c'est par rapport à les prendre l'été. Mais la personne le dit. Non.
Ou de décrocher. Peut-être que aussi, c'est quand t'as des enfants, tu peux pas prendre juste des vendredis de congé l'été. Là,
Isabelle qui dit ce que je trouve plate des vacances, c'est que je suis seule et mes amis en couple. Je suis en appartement, pas de piscine, pas d'entretien, de rien. Je trouve le temps long. Fait que je prends des week-ends de 4 jours à chaque mois. Puis après les fêtes, je prends mes lundis de janvier à mai.
C'est vrai, parce que le week-end, les gens sont plus disponibles. Donc, quand tu es une personne seule, lundi, mardi, mercredi, ça peut être plate un peu. Là.
Alex qui dit pour l'instant, tant que je peux, parce que son petit est encore à garderie, les vacances sont en septembre, octobre et février, mars. On dit que... Martin qui dit novembre pour la chasse. C'est vrai que pour les chasseurs, c'est une activité qui peut être le fun.
C'est pas déprimant du tout,
non,
Mathias,
c'est ça.
En passant.
Pascal, depuis que j'ai plus d'enfants, c'est en septembre ou fin octobre à la Saint-Jean et Confédération. Je prends une journée de plus pour faire des 4 jours. C'est ça, faire les longues fins fin de semaine. Ça a l'air d'être assez populaire. Moi, la belle vie en vacances septembre, fait beau, il y a moins de gens seuls, sans enfants, travailleurs autonomes.
C'est vraiment nice. Le mois de septembre, là, il fait beau. Ça coûte moins cher, mais la plupart des gens sont pognés dans la rentrée. C'est pas tout le monde qui peut.
Myriam qui dit « J'ai pris mes dernières semaines en Égypte en avril. Je suis parti, faisait frette à mon retour, faisait chaud. J'ai skippé le temps de boîte, c'était parfait. » C'est vrai que partir en vacances en avril, tu pars, puis c'est lettre, puis tu reviens, puis c'est rendu beau. Ilsa, allô, moi, mes vacances, j'aime les prendre au mois d'octobre pour faire de la randonnée.
Oui.
Avec les, octobre, il y a les belles...
Les
Prenez des notes, puis il n'y a pas une bonne façon de faire. Moi, je pense que je vais continuer de prendre des petites journées de temps en temps, des mercredis pour aller voir des shows. Ça te fait des drôles de semaines. On l'a tout vécu, en fait, cette année avec la Saint-Jean puis le 1er juillet qui nous a fait des très weird semaines. Là.
Mais j'haïssais pas ça, moi, tu vois, avoir congé le mercredi, c'est comme ça vient couper ça, puis...
Ton lundi, t'es un jeudi, puis le mardi, t'es déjà le vendredi.
Non, mais c'est ça quand même. Le lundi, t'es pas fâché de rentrer à job parce que tu sais que le mercredi arrive, puis après ça, le jeudi... Ben, tu sais que la fin de semaine arrive.
C'était lundi, vendredi, congé. Lundi, vendredi.
Ouais, exact.
C'est ça.
Mais
fabuleux.
J'ai presque eu la réflexion, si un jour j'ai à faire des semaines de 4 jours, là, je prendrais presque le mercredi de congé, non le vendredi et le lundi comme plusieurs font.
Vous êtes très actifs au 418-971-1021. Continuez de l'être, toujours un plaisir de vous lire. Au retour, les nouvelles avec Mathias et Sam Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile, va aussi venir faire son tour un petit peu plus tard. Vous écoutez le retour à Boulevard avec Antonine, Mathias et Max.
Le retour